Bonsoir. Célébration hier mercredi de la Journée internationale de l'alimentation. En RDC, plus de 6 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique. C'est ce qu'a indiqué le Programme alimentaire mondial en RDC. Parmi les solutions, le ministre congolais de l'Agriculture préconise, entre autres, un service agricole obligatoire. Comment expliquer cette situation en RDC? C'est le thème de ce soir. Nos invités dans cette émission sont Jean-Chrysostome Vahamwiti, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être venu jusqu'ici.
Bonsoir.
Georges Kombo Tongabroke, ancien secrétaire général de l'UNTSA, il est opérateur économique. Monsieur Kombo, bonsoir.
Bonsoir.
Alki Tengue, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Partout en RDC, vous nous suivez en FM et partout au monde sur RadioCapi.net. Merci de nous recevoir chez vous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Environ 6 500 000 malnutris chroniques et 600 000 malnutris aigus, c'est la situation que présente la RDC en cette journée. Fabienne Pompé, chargée de la communication du programme alimentaire mondial en RDC, l'a révélé mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Elle précise tout de même que des efforts sont fournis pour remédier à cette situation. Écoutez Fabienne Pompé dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
Quelle est la situation en RDC? Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles d'abord, c'est qu'il y a encore dans ce pays 6,5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, qu'il y en a 1 sur 10 qui souffrent de malnutrition aiguë, ça veut dire qu'ils sont malades. Heureusement, tous ne meurent pas, mais il y a des conséquences et des séquelles terribles à l'âge adulte, même quand on a des épisodes de malnutrition quand on est enfant. Et un enfant malnutri ne se développe jamais physiquement et intellectuellement comme il le devrait. La bonne nouvelle, c'est que la malnutrition, ça se soigne et ça se prévient, et que le gouvernement, à travers le Pronanut et avec ses partenaires, l'UNICEF, l'OMS, le PAM, la FAO, ont uni leurs efforts pour éradiquer ce fléau. L'UNICEF et le PAM, à eux deux, soignent chaque année 300 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes qui sont touchés par la malnutrition sévère ou modérée. L'autre bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a adhéré récemment à l'initiative SUN. C'est une initiative mondiale qui prône le renforcement des actions pour la nutrition. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation. Cette lutte importante contre la malnutrition.
Voilà, Monsieur Jean-Chrysostome Vahamwiti, vous êtes ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du gouvernement central. Il y a Emery Fioti qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Comment expliquer qu'un grand pays extrêmement riche comme la RDC puisse enregistrer un taux si élevé de malnutrition alors que notre pays détient plus de 80% de terres arables, Monsieur le ministre ?»
Merci beaucoup, Monsieur Ironk. Le compatriote de tout à l'heure s'exclame que face à un potentiel de 80 millions d'hectares et un grand pays que nous sommes, comment expliquer qu'on ait un taux de malnutrition aiguë et chronique aussi élevé, mais alors que nous avons un potentiel qui nous aurait pu éviter une telle catastrophe. Donc, si je comprends sa question, il veut qu'on revienne aux causes.
Effectivement.
Parce que pour comprendre une situation, il faut remonter vers les causes. Et très souvent, nous avons fait dans ce pays un raisonnement qui croit que la tumeur commence, que le cancer commence le jour qu'il a développé la tumeur. Donc ça, c'est comme une tumeur, les 6 millions de malnutris. Mais nous vivons des situations qui, en fait, remontent plus loin dans l'histoire post-coloniale de notre pays.
Quelles sont ces situations, Monsieur le ministre?
Je vous dirais que d'abord, à partir des années 1980, il y a eu des investissements dans le secteur agricole. Le budget qui était affecté à l'agriculture est allé de croissant. Tant au niveau de la recherche agronomique que de l'entretien des routes de dessertes agricoles que des autres composantes qui constituent l'agriculture. Ça, c'est une des causes lointaines. Et ce budget est allé décroissant jusqu'à aller en dessous de 1% du budget national. Ça, c'est une des grandes causes qu'on ne doit pas sous-estimer. Pendant qu'on était en train de vivre cette situation, cette dégradation permanente, il est intervenu une succession de conflits armés et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Nous en sommes tous témoins et victimes et acteurs. Et donc, ces conflits sont venus aggraver la situation, avoir le nombre de déplacés à l'intérieur de notre pays, et il est très difficile que des personnes qui vivent dans des zones à conflit puissent vraiment produire de quoi manger. Il s'en est également suivi progressivement, sur les 20-30 dernières années, une quasi-faillite de l'État, jusque pratiquement aux années 2002-2003, à la réunification de notre pays. Et donc, une administration agricole qui était dynamique à l'époque coloniale et dans les premières années de notre période d'indépendance, cette administration s'est effondrée. C'est un des grands défis auxquels je suis en train de faire face aujourd'hui et qui nécessite des réformes profondes de notre administration agricole, même si, dans notre esprit actuel, l'essentiel des initiatives doivent être laissées au secteur privé. Au secteur privé, mais accompagné par les structures de l'État.
Alors, Monsieur le Ministre, à ce niveau, il y a Freddy qui nous écrit de Goma au Nord Kivu qui dit « Je viens de réaliser 9 ans en train de travailler dans des structures nutritionnelles à Rutshuru et à Goma au Nord Kivu, mais les cas continuent à nous arriver malgré l'éducation sanito-nutritionnelle. Les causes, les vraies causes sont notamment le manque d'alphabétisation, car bon nombre de cas nous arrivent des familles analphabètes et l'inaccessibilité des soins médicaux par beaucoup de personnes à cause de la pauvreté grandissante. Et donc, Monsieur le Ministre, il cite parmi les causes le manque d'alphabétisation. Pour bien manger, il faut aussi être informé.
Bien sûr, sur le plan nutritionnel, parce que nous avons là deux notions importantes, une notion quantitative et une notion qualitative. Et très souvent, dans nos familles africaines, nous privilégions la quantité. Quelle que soit la qualité de la nourriture que vous donnez à un Africain, peut-être y compris moi-même, s'il n'y a pas un volume, on n'est pas satisfait. On a l'impression de n'avoir pas à manger. Effectivement, sur le plan nutritionnel, donc sur cet aspect qualitatif, il est évident que même certaines personnes intellectuelles sont restées limitées à ce niveau-là. Et n'oubliez pas que c'est une question d'habitude nutritionnelle. Et là, je ne m'aurais pas glissé sur la notion de souveraineté alimentaire qui veut qu'on laisse le peuple consommer ce qu'il produit. Parce que nous tombons aussi dans une aliénation quand on commence à demander aux gens de ne plus consommer les ignames et les tarots pour consommer du pain alors que nous ne produisons pas du blé. Mais cela ne dit pas qu'il faut seulement manger des tarots. Ça signifie qu'il faut aussi cueillir des fruits, etc.
Monsieur le ministre, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Mathieu Bauer est depuis Goma en province du Nord Kivu. Cette malnutrition observée en RDC traduit une absence totale de la gestion de la terre très fertile, de l'eau riche en poissons et de la forêt riche en animaux. La politique adéquate nous paraît inexistante et voire même impossible. Tous les projets en cette matière sont planifiés et exécutés par les ONG dont l'État n'a même pas le temps de demander le rapport, raison pour laquelle tout le monde se moque de nous.
Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure évoqué des causes lointaines, des causes occasionnelles, la guerre, les conflits et tout ça. Y a-t-il finalement une politique agricole en RDC?
Bien sûr. La reconstruction de l'État congolais, ce ne sont pas seulement les routes ou les boulevards que vous voyez à Kinshasa. La reconstruction d'un pays est d'abord conceptuelle. Dans tous les domaines de la vie nationale, il faut d'abord concevoir ce que vous voulez faire de ce pays cette année, l'année prochaine, dans les 20 ans, dans les 30 ans. Et vous savez ce que le chef de l'État veut faire de ce pays d'ici là 2030. Parce que nous, comme gouvernement, nous matérialisons la vision du chef de l'État. C'est un Congo émergent. Et pour être un Congo émergent, il faut réunir les conditions. J'aimerais donc dire à mon frère auditeur de Goma, s'il n'en était pas informé, parce que j'ai fait plusieurs émissions sur ça, que le ministère de l'Agriculture avec tous les partenaires techniques et financiers, et tous les partenaires de la société civile du secteur agricole, viennent de mettre au point un programme national d'investissement agricole. C'est en fait ce programme qui va guider l'action agricole dans ce pays de 2013 à 2020. Et ce programme détermine les grandes actions à mener pour relancer le secteur agricole et rural dans ce pays.
Merci, Monsieur le Ministre. On y revient avec force détail tout à l'heure. Georges Kombo Tongaboke, vous êtes ancien secrétaire général de l'UNTESA, vous êtes opérateur économique, vous êtes également dans l'agriculture. Comment vous expliquez que la RDC est un pays à très fort potentiel en terre arable puisse souffrir d'autant de malnutrition?
Bon, je vous remercie et je salue en passant Monsieur le ministre, qui a donné un bref aperçu de nos difficultés, des causes de ce qui pourrait être aujourd'hui à la base de la malnutrition chez nous. Évidemment, à la fin, il vous dira qu'il y a un problème de politique. Il dit qu'il y a une politique gouvernementale en la matière. Mais moi, en tant que président de l'Union des consommateurs du Congo, je m'en vais vous dire que le citoyen n'a pas besoin de ce discours. Le citoyen, lui, il a besoin de la vie au quotidien. Et alors là, automatiquement, il se dit, mais on s'occupe pas de moi. On s'occupe pas de moi. Et si les gens qui ont parfois l'occasion d'aller dans l'arrière-pays, et qui rentrent, et ils vous diront que non, ce que nous avons vécu en 1960, par exemple, ce que nous étions exportateurs de plusieurs choses, nous n'avons jamais souffert de la malnutrition comme telle. Il y avait d'autres problèmes qui nous ont amenés à demander l'indépendance, mais en tout cas, ce n'était pas un problème de malnutrition. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est une question de priorité. Nous avons toujours dit que, depuis des années, que l'agriculture était la priorité des priorités. Mais quand on visite le budget de notre pays, moi, j'ai été plusieurs fois député. Les budgets de notre pays pour l'agriculture, c'est un budget qui est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Et partout où vous passez, on vous dira, mais vous-même, vous ne voulez pas développer votre pays. Nous importons quasi tout aujourd'hui. Hein. Le ministre a dit, avec raison, quand il dit qu'il faut... Il faut que le peuple mange ce qu'il produit. Alors, en ce moment-là, que produit le peuple congolais? Que produit-il? Quand je vois que, pour le moment, l'enfant de moins de plus ou moins 20 ans, 25 ans, c'est un enfant qui ne connaît que le chinchard. Le chinchard est importé, le poulet est importé, même le riz que nous avions de gauche à droite est importé. Nous importons tout ce qui est aliment. Dans toutes nos alimentations ici, ce sont des produits étrangers. Mais quelle est la politique gouvernementale pour mettre fin à ça? Pourquoi n'affecterait-on pas un budget conséquent pour mettre fin à... Moi, je trouve ça vraiment une catastrophe. Même quand nous parlons, nous venons de sortir de concertations, nous parlons de la crise au niveau du Congo. On dit que nous avons des sérieux problèmes. Mais moi, je crois que lorsque les gens ne mangent pas à leur faim, ne mangent pas suffisamment, n'ont rien à manger, mais ces gens sont aussi comme s'ils étaient en guerre. Parce qu'ils se battent pour obtenir ne fût-ce que quelque chose au niveau d'un ménage où on se partage. Aujourd'hui, c'est pour le papa, demain, c'est pour l'enfant et parfois rien. La malnutrition, pour moi, c'est un fléau. Je ne peux pas m'expliquer ça dans un pays comme le nôtre où, avec ou sans engrais, tout poussait. Mais aujourd'hui, moi, je suis opérateur économique, je suis à Maluku, quand je quitte Kinshasa, je vais à Maluku, il y a plusieurs fermes, ferme Intel.
Georges Combo.
Ils n'ont pour nom que le nom de l'individu. Quand vous êtes vous entrez dedans ces fermes-là, il n'y a ni poule, ni coq, ni il n'y a rien, ni élevage, ni agriculture, ni champ. Mais
Georges Combo.
Que fait-on pour que
voilà. Georges Combo, est-ce que vous me suivez?
On encourage ceux qui peuvent, on initie. Enfin, plus tard, peut-être vous me poserez la question, puisque
il y a
là-dedans tout un tas de choses. Il y a un problème de classe moyenne, il y a un problème de...
Voilà, Georges Combo,
visiblement,
il ne nous suit pas. On aimerait bien le relancer avec quelques questions. Georges Combo, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis maintenant.
Voilà, merci beaucoup de nous permettre d'échanger pour que nous n'ayons pas à monopoliser la parole. Les auditeurs aimeraient bien profiter de votre expertise aussi. Le ministre, finalement, n'a-t-il pas raison quand il parle de la faillite de l'État? L'État est tombé très bas. On se souvient que dans ce pays, il y avait par exemple la Banque des Crédits Agricoles qui a fait faillite. Il n'y a pas très loin, il y a quelques années, des tracteurs ont été distribués, mais qui n'ont produit aucun effet. L'État n'était-il pas tombé trop bas au point qu'aujourd'hui on n'en ressent pas les effets malgré les efforts?
Moi je crois que le ministre a parfaitement raison, hein. On a eu déjà plusieurs émissions à ce sujet. Moi je dis bien, si le gouvernement veut sauver ce peuple, le gouvernement doit penser à l'agriculture. De par le monde, c'est l'agriculture qui est la base de tout développement. Il faut manger ce qu'on produit. Et nous avons cette chance-là, l'eau, nous avons la forêt, nous avons tout ça. Alors le gouvernement ne fait aucun effort pour que l'homme congolais consomme ce qu'il a, on lui a jeté ça par le bon Dieu. C'est une terre fertile. Vous savez, je veux vous dire une chose pour souligner la faillite de l'État.
Très rapidement.
Ne fût-ce que dans le domaine de la pisciculture, parce que le ministre est aussi chargé de la pisciculture. Ne fût-ce que dans le domaine de la pisciculture. Si seulement on pouvait acheter quelques camions, quelques engins, et mettre à la disposition, en créant un office d'office ou de quoi, mettre à la disposition de ceux qui veulent faire l'élevage de poissons, mais leur accorder un petit crédit. Ben, au bout de 2 ans, 3 ans, merci. Nous aurons des poissons ici, de toutes sortes.
Merci.
Et avec cela, nous allons, au lieu d'importer, nous allons plutôt consommer, économiser des devises.
Merci. Merci Georges Combo. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alki Tengue, vous êtes analyste économique. Vous avez suivi le ministre Vahamwiti. Georges Combo pose un problème de priorité.
D'abord, moi je suis très mal à l'aise. Nous sommes là en train de discuter sur base des statistiques des autres. Ce que j'aurais bien voulu, moi, c'est d'avoir les statistiques du gouvernement. Savoir quel est l'état réel de la malnutrition chez nous, comment se présente le problème, comment est-ce que le gouvernement le mesure. J'ai toujours été très mal à l'aise de constater que la plupart des statistiques qu'on nous présente sont des statistiques pour des besoins de la cause. Je n'y accorde pas nécessairement toute la rigueur scientifique. Ceci dit, je pense que dans la situation d'aujourd'hui, il faut changer de paradigme.
C'est-à-dire ?
Il faut changer toute l'approche. Dans notre pays, quand on dit villageois, on s'imagine un homme illettré, on s'imagine un homme pauvre, on s'imagine un homme qui, quand il tombe malade, il meurt. On imagine quelqu'un qui vit dans une hutte. Quand on dit milieu rural, on a l'impression que ça doit rester minable. C'est tout ça que nous devons commencer par changer. Il y a une grande injustice dans ce pays. Nous n'avons pas ce qu'on appelle un commerce équitable. Nous volons nos propres frères qui vivent dans les milieux ruraux simplement parce que nous exploitons leur ignorance. Si cet ensemble de choses arrivait à changer, nous mettrions en place une volonté nationale d'équité, parce que c'est bien de demander aux gens de participer à l'économie nationale, mais il faut d'abord être équitable. Et ce que moi j'appelle l'équité, c'est d'abord cette notion de nation. Vous savez, lorsque vous regardez la pauvreté, le mapping de la pauvreté de notre pays, les milieux ruraux sont les plus pauvres. Mais toute l'activité politique est dans les milieux urbains. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, regardez le mapping de la guerre. C'est dans les milieux pauvres. Les milieux où nous n'avons pas eu d'activité. Les milieux où nous n'avons pas eu de présence publique. Je pense que le premier renversement, c'est celui-là. Le deuxième, c'est de ne pas s'inscrire dans la fausse guerre que nous indiquent nos partenaires, celle de la lutte contre la pauvreté. Non, non, nous devons nous engager dans une production intense de richesses pour être en mesure de donner une véritable idée de partage de ce que nous avons produit partout dans notre pays au travers du travail. Et je pense simplement qu'il y a quelque chose de simple. Lorsque vous regardez le mapping de la pauvreté, il va ensemble avec le mapping de l'illettrisme. Ça veut dire qu'en fait, les questions fondamentales d'éducation, de la répartition de l'éducation, sont là-dessus des questions primaires. Mais lorsque vous regardez sur ce mapping, il reste un autre mapping, c'est celui de la présence du personnel public. Pour entrer dans le secteur du ministre, demandez-lui où se trouvent 80% des agronomes. Ils sont en ville. Pourquoi ? Simplement parce que pendant très longtemps, l'État congolais payait les agronomes qui étaient dans les milieux reculés, 7 fois moins que quand ils étaient à Kinshasa. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort pour régulariser la situation. C'est l'inverse qu'il faut faire. Maintenant, il faut payer 3 fois plus les agronomes et les vétérinaires qui acceptent d'aller dans les milieux reculés parce qu'ils se privent. Donc, mon point de vue, c'est que nous devrons avoir aujourd'hui un véritable choix du renforcement économique du milieu rural. Du renforcement de l'intelligence du milieu rural. Il faut répartir l'intelligence congolaise dans les milieux où il y a le plus de défis. Je pense que les meilleurs d'entre nous doivent prendre les grands défis et être en mesure d'être incités pour cela par l'État. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est de notre côté, ce sont les technologies. Et je crois que si le gouvernement le veut, il peut réellement s'inscrire dans une politique volontaire.
Et cela s'accompagne d'un budget conséquent.
Nous avons 3 manières de mobiliser ce budget. La première manière, c'est déjà de la planche à billets parce que simplement notre économie est démonétarisée. Nous avons une économie sèche. Dès que vous quittez les grandes villes, il n'y a pas d'argent et on l'a vu pendant la période électorale. Donc nous pouvons travailler avec la planche à billets pour amener de l'argent dans les secteurs de la production. Ça ne produira pas d'inflation, que personne ne vous trompe. Deuxième chose, le budget de l'État, ça veut dire l'argent de tout le monde. L'argent que nous mobilisons par les taxes, nous devons être en mesure de l'investir le plus loin possible dans les provinces pour que ça puisse être en mesure de se terminer ici. La troisième chose, c'est les partenariats publics-privés, ça veut dire en fait des investissements des privés en partenariat avec l'État, ça veut dire avec des programmes d'incitation. Si ces 3 manières sont utilisées de manière efficace et intensive, nous avons la possibilité de produire de la nourriture pour nous, et pour l'Israël, et pour le Japon, et pour l'Afrique du Sud, et pour beaucoup de pays désertiques comme des pays arabes qui ne demandent que de la possibilité de pouvoir acheter de la nourriture là où ils peuvent l'avoir de bonne qualité et à moins cher.
Al-Kitenge, d'après les statistiques de la FAO, chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées à l'échelle mondiale. Cela représente un coût de 750 milliards de dollars. Près de 30% des surfaces agricoles de la planète produisent ainsi à perte. En RDC, on sait qu'il y a des coins où il y a beaucoup de production, mais qui sont perdus simplement parce qu'il n'y a pas de route.
Oubliez les routes, c'est très difficile à mettre en place. Il faut déjà être en mesure de stabiliser les produits agricoles, les chaînes de valeur, les petites technologies qui permettent de sécher la mangue, de pouvoir rapidement sécher le manioc et le maïs et le mettre sous forme stable pour que ça puisse être en mesure d'attendre. Parce que si vous voulez aller dans les infrastructures tout de suite, ça prendra 5-6 ans pour que nous soyons en mesure d'avoir un minimum d'infrastructures. Mais déjà aller dans les techniques de stabilisation et des chaînes de valeur. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut déployer l'intelligence le plus loin possible dans notre pays. Il ne faudrait pas que tout le monde reste en ville. Et pour ça, l'État peut se doter d'une stratégie pour être en mesure d'inciter les Congolais qui sont capables d'aller prendre le défi en leur donnant les moyens nécessaires, le premier étant celui du salaire asymétrique. Pour la même fonction, lorsque vous avez le confort des routes de Kinshasa, du courant électrique et de tous les avantages que nous avons en ville, lorsque vous acceptez d'aller dans les milieux ruraux où il n'y a rien, où vous êtes un agent du changement, on doit vous donner 3 fois plus d'argent de l'État.
Monsieur le ministre, vous venez de suivre Al-Kitenge ainsi que Georges Kombo. Comment pouvez-vous ramasser rapidement leurs préoccupations, Georges Kombo? Je reviens insister sur la question de priorité et vous venez de suivre Al-Kitenge qui pense qu'il faut changer d'approche.
Oui, Monsieur Ironk, vous me demandez de ramasser très rapidement. Comme vous le savez, tous deux ont parlé assez longuement, mais je vais me mettre à l'exercice, à remercier tout d'abord le président de l'Union des consommateurs Tonga. Je le remercie parce que j'ai quand même l'impression qu'il a tenu un discours responsable, contrairement à beaucoup de gens qui considèrent notre génération, celle qui gouverne aujourd'hui, qui est une des générations victimes, comme une génération bourreau. Donc j'ai beaucoup apprécié parce que il a longtemps été dans une à l'INTESA, qui était une institution spécialisée d'INPER, mais aujourd'hui je vois qu'il est devenu un grand entrepreneur et j'ai beaucoup apprécié le sens de responsabilité avec lequel il s'est exprimé. Avant de revenir sur le fond, j'ai aussi apprécié les propos de l'expert Kitenge. Il a un langage du système des Nations Unies, je crois. Donc je crois que c'est un véritable expert qui entre beaucoup dans les livres et certainement qui peut apporter quelque chose. Mais si vous pouvez me le permettre, monsieur Alain Ironk, il est important, même si à plusieurs circonstances nous rencontrons les différents partenaires du ministère, que je rappelle par exemple la mission assignée par le chef du gouvernement, la lettre de mission qui m'a été envoyée par le Premier ministre pour l'année 2013, à quelques trois lignes.
Allez-y, premièrement.
Premièrement, il m'est demandé comme ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de mettre en œuvre le programme de la campagne agricole à travers le pays. Je ne veux pas revenir sur le budget qui a été voté, mais je vous dirais que le budget était de 74 milliards de francs congolais, à peu près 75 millions de dollars. Et effectivement, le programme est à court. Et à ce jour, le Trésor public a pu effectivement débloquer 20 milliards de francs congolais, à peu près 21 millions de dollars.
Deuxième chose,
dans la lettre de mission me confiée par le Premier ministre, c'est de lancer des projets pilotes en rapport avec l'initiative des parcs agro-industriels, à synergie avec le ministère de l'Industrie et Commerce, le ministère de l'Industrie, de l'Économie et Commerce, de l'Industrie Petite et Moyenne Entreprise et des Finances. C'est de développer des noyaux de production à travers des pays qui seront des pilotes, et tout en encourageant la petite agriculture familiale.
Troisième
priorité, c'est de mettre en place un système de suivi et évaluation. Tout à l'heure, un des intervenants soulignait le rôle de manque même de coordination. Non seulement il n'y a pas de suivi et évaluation, l'intervenant de Goma a dit que les ONG interviennent, chaque ONG fait ce qu'elle veut, et l'État ne prend pas son pouvoir pour encourager, mais aussi pour coordonner l'ensemble des actions qui se passent dans le secteur. La quatrième priorité pour cette année 2013, à ce qui concerne mon ministère, c'est d'organiser la réunion des bailleurs et investisseurs pour le secteur agricole en coordination avec le ministère des Finances. Cette réunion, nous l'organisons à Kinshasa, le business meeting, les 7 et 8 novembre 2013. Et la cinquième priorité, c'est de promouvoir les cultures pérennes qui ont fait la priorité de ce pays, le quinquina, le café arabica, le palmier à huile, le coton, le veilla. Et la sixième priorité, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout, c'est de mettre en œuvre le fonds d'innovation agricole avec l'accompagnement de l'Institut agronome, de l'Institut international d'agriculture tropicale. C'est un fonds de 3 millions de dollars.
Monsieur le ministre, pour vous arrêter à ce niveau-là, le temps de donner la parole à d'autres intervenants, vous allez très rapidement répondre à cette question. Là, vous êtes pratiquement déjà dans la deuxième partie. Vous avez énoncé des priorités. Pensez-vous que toutes ces priorités permettront de relancer l'alimentation en RDC au point de résoudre ce problème de malnutrition que connaît la RDC, très brièvement?
Bien sûr, ces priorités ont été définies, c'est parce qu'on n'a pas le temps matériel.
Mais avec quel budget?
Le budget, je vous parle de la campagne agricole à court, je vous dis que sur 74 milliards de francs congolais, jusqu'aujourd'hui, il y a 20 milliards de francs congolais qui sont déjà déboursés. Et donc, chaque province devait bénéficier de 5 milliards de francs congolais. Pour le moment, chaque province n'a eu que 1 milliard 500 millions de francs congolais. C'est 27% du budget de la campagne. Et c'est ça la capacité de notre trésor public.
Merci,
on n'a pas incriminé qui que ce soit.
Merci, monsieur le ministre. Que faut-il pour améliorer l'alimentation? Il faut, selon le message du secrétaire général des Nations Unies à cette occasion, perfectionner les systèmes alimentaires. Pour Ndiaga Gueye de la FAO-RDC, une alimentation saine suppose des systèmes alimentaires sains, un système qui devrait être bâti sur des politiques adaptées, des mesures d'incitation et de la bonne gouvernance. Et Ndiaye Gueye a une idée sur la voie de sortie en RDC. Il le dit au téléphone de Jacques-Yves Molima.
Ça va passer à travers un grand nombre d'activités ou un grand nombre d'actions allant non seulement à intensifier la production par des moyens additionnels, mais ça veut dire aussi investir dans la recherche, investir dans la maîtrise de l'eau, investir dans l'irrigation, investir dans des semences de bonne qualité. C'est beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'il est possible rapidement ici en RDC d'y arriver. Ça demanderait quand même un effort conjoint. Si on prend un pays comme la RDC, il n'y a aucun secteur qui peut mettre massivement les Congolais au travail plus que le secteur de l'agriculture. Le Congo est un pays à vocation agricole. C'est démontré, c'est avéré. Et tout ce qu'on fera pour investir mieux dans l'agriculture, mieux le pays se comportera.
Georges Combo, il y a une série d'éléments qui sont cités, investir dans la recherche, investir dans la maîtrise de l'eau, investir dans l'irrigation. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour résoudre le problème d'alimentation en RDC pour vous?
Ce que M. Ndiaye a dit, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, il faut un effort et je crois que il n'est pas loin de M. le ministre. Il faut un effort, comme le ministre dit, qu'il y a de l'argent, mais c'est de concrétiser ce budget, faire un effort. Moi, j'ai suivi notre frère Tshitenge qui lui a parlé de ne pas s'occuper des routes. Je ne sais pas. Hein, la route, c'est un facteur déterminant pour l'agriculture. L'agriculture, c'est d'abord l'arrière-pays. Chez nous, ici, nous avons un sérieux problème de routes, les routes des essais agricoles, surtout. Même si vous envoyez des tracteurs, mais s'il n'y a pas de route, vous ne saurez pas utiliser ces tracteurs, monsieur le ministre. Et il y a des coins, des territoires entiers, pour ne citer que le territoire de Mokoto, par exemple. Il n'y a pas un seul tracteur. Un territoire qui vaut le royaume de Belgique en termes de surface. Pas un seul tracteur. Alors comment voulez-vous qu'il y ait un développement, parler agriculture sans qu'il y ait un tracteur dans un territoire aussi vaste que le territoire de Mokoto? Donc c'est un problème d'effort, comme dit M. Ndiaye. C'est une question de s'investir dans tout ça, les recherches et tout ça. Mais pour le moment, soyons pragmatiques. Nous, si seulement le quotidien, l'homme pouvait avoir un peu de moyens, un effort, c'est-à-dire penser à cette petite classe moyenne qui disparaît, qui n'existe presque plus, lui donner des moyens, s'il y a quelques individus qui sont intéressés par l'agriculture, il y en a, mais qui manquent des moyens. Vous avez dit, vous-même, je crois, à l'introduction, nous avions une banque ici, la banque de crédit agricole qui n'existait plus. Il n'y a aucune institution financière capable de donner un peu de tonus à ce secteur capital clé. Donc moi je pense qu'il faut un effort de la part du gouvernement vis-à-vis de... Nous parlons, l'agriculture c'est l'arrière-pays. Ah oui, c'est l'arrière-pays. Mais l'arrière-pays, il faut que les autorités pensent arrière-pays. Or, tout se fait en fonction de Kinshasa ici, comme j'entends, Kinshasa, Lubumbashi, dans les chefs-lieux des provinces. On ne parle pas de l'arrière-pays où, normalement, l'agriculture pouvait se développer.
Georges Combo, dans son message à l'occasion de cette journée, le ministre a, parmi les autres solutions, préconisé, par exemple aussi, un service agricole obligatoire. Quelle est votre réaction?
Oh ben si, ce serait une bonne idée, hein, les services agricoles obligatoires. De toutes les façons, les gens qui sont dans l'arrière-pays, les enfants qui font l'agriculture pour la consommation individuelle, c'est presque obligatoire, hein. Ce sont les enfants aujourd'hui, ce sont les femmes, ce sont les enfants qui nourrissent les familles. Mais si on peut en faire une décision d'État pour que tous les enfants, tous les Congolais, enfin, tous ceux qui sortent de l'école, à l'instar de l'armée, puissent pratiquer l'agriculture, ne fût-ce que pour leur propre alimentation, mais ce ne serait une bonne initiative. Hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres lieux que d'en faire une obligation. Il y a tant de volontaires, des gens qui peuvent faire ça.
Merci.
Ne fût-ce que la résurrection des anciennes entreprises. Vous savez, il y a eu beaucoup d'entreprises agropastorales ici dans ce pays, mais qui sont devenues aujourd'hui inexistantes.
Merci Georges Kombo. Alkitenge, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Professeur Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga. Je ne pense pas que c'est en rendant l'agriculture obligatoire qu'on va arriver à faire du Congo un pays agricole. L'agriculture est un secteur de travail dans lequel ne peuvent évoluer que les professionnels. Le secteur est très exigeant et différent des exhibitions que nous font nos politiciens. C'est cela que le gouvernement doit comprendre au lieu d'énoncer des formules dépassées. Beaucoup de choses doivent être faites pour arriver à développer l'agriculture. C'est notamment des recherches avec diffusion des résultats dont l'application est adaptée à nos conditions, une amélioration des infrastructures rurales, une augmentation des superficies exploitées et notamment enfin un appui et un encouragement aux investissements dans le secteur agricole.
Réaction à Alkitenge.
Monsieur Okombe a raison, il dit des choses logiques, mais moi je les étaye. Aujourd'hui, regardez le roaming national que nous avons avec la téléphonie. Quelqu'un qui est à Bukama ou à Uvira ou à Malembankulu ou à Lukutu, ces gens sont à égale distance du serveur de Vodacom ou de RTL ou de Tigo. C'est ça que l'État doit faire. C'est de mettre les citoyens à égale distance du service public. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ces statistiques que l'on nous donne, on a l'impression que ce sont des statistiques nationales. Non, non, c'est des arithmétiques, c'est des moyennes arithmétiques. Ce qu'il faut regarder, ce sont les moyennes pondérées. Quelle est la sévérité province par province? Quelle est la sévérité en ville par rapport aux milieux ruraux?
Commencez par maîtriser les chiffres.
Il faut commencer par maîtriser les chiffres. En ce moment-là, on va cibler. Et on va se rendre compte qu'on a une obligation vis-à-vis des milieux ruraux que nous n'avons fait que piller durant des années et nous n'avons pas arrêté. C'est pour ça que je dis, il est important de répartir les intelligences et les compétences congolaise. C'est un effort de l'État en donnant des incitatifs. Parce que je voudrais répondre à monsieur Kombo tout à l'heure, il parlait des routes. Nous avons une très belle route qui vient du Bandundu jusqu'ici. Quelle est la production que cela a engendré? Quasiment zéro. Ce qui manque là-bas, c'est des vrais opérateurs agricole et agro-industriel. Ce qui manque là-bas, c'est des vraies compétences, des gens qui ont une vraie vision, qui mettent les moyens nécessaires pour être en mesure de produire. La route elle-même ne produit pas l'économie automatiquement. C'est une des conditions. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de déployer l'intelligence congolaise dans l'arrière-pays. Si les meilleurs d'entre nous sont le plus profond dans le pays, nous allons nous porter beaucoup mieux. Tout le monde vient ici et tout le monde veut devenir politicien parce que c'est le métier le plus facile. Et je crois simplement que nous devons être en mesure de nous dire que tous ceux qui ont réussi, tous les pays qui ont réussi, ils ont réussi par deux facteurs. Un, l'ouverture. Vous ne pouvez pas vous développer vous-même. Tout le monde parle de la connaissance. Tout le monde parle de la recherche. Aujourd'hui, la recherche est une matière partagée. Elle est internationale. Deuxième chose, les capitaux pour investir. Nous n'en avons pas suffisamment. Et le ministre fait un aveu clair et simple. Nous n'avons pas d'argent. Donc nous devons nous ouvrir à ceux qui ont de l'argent. D'où la grande question du partenariat public-privé. La réponse à la malnutrition dans notre pays passe par l'activité qui est destinée non seulement à nourrir nos enfants, mais également à nourrir les autres enfants dont le sol est aride et qui n'ont pas de pluie. Et ça, c'est une vocation géostratégique de notre pays. C'est dans cette grandeur qu'il faut regarder le pays. Ce Congo, il faut le regarder en grand et en numérique.
Papi Kassema de Kinshasa, pour que l'alimentation ne soit plus un luxe en RDC, il est impérieux de suspendre toute importation des aliments nutritifs de première nécessité. Tata Umba de Lubumbashi, pour nous Congolais, pour réaliser ce projet, il faut financer le service national, le seul capable et compétent de gérer la crise alimentaire dans notre pays, Alkitenge.
Il a peut-être raison. Je vais aller beaucoup plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est de renvoyer de l'argent dans les milieux de production. Et pour le faire, une des idées simples, c'est de créer ce qu'on appelle les centrales d'achat
publique. Ça veut dire l'État va le plus loin possible acheter tout ce que les producteurs mettent sur le marché, le ramène dans les centres de consommation à valeur ajoutée. Et la vérité, c'est que ce ne sera pas nécessairement des opérations financièrement rentables, mais ce sera des opérations viables économiquement. Mais ça, c'est le rôle de l'État, jusqu'à ce que les privés reprennent les poumons nécessaires pour être en mesure d'avoir et les infrastructures, parce que celles-ci justifient la production justifie les infrastructures, pour que nous arrivions à tomber à l'équilibre normal.
Voilà, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Je vois le ministre demander instantanément la parole. Monsieur le ministre, très rapidement, il nous faut déjà conclure.
Merci. J'ai l'impression que vous m'avez privé de la parole.
Non, on a un chrono que vous montre d'ailleurs Alki Tengue qui règle le temps de parole de chaque invité.
Merci. Moi, je crois que Tonga a dit que nous devons être pragmatiques.
Et je crois qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement?
Ça voudrait dire que nous devons éviter des formules classiques. Par exemple, si je fais un appel pour dire que nous devons instaurer un service agricole obligatoire, ce n'est pas pour dire que je demande à l'agriculture de ne pas être professionnelle. Aujourd'hui, si l'Israël a demandé que tout le monde passe par ce service, ou les pays comme la France, ou comme la concertation nationale vient de nous le recommander, ce n'est pas un métier. C'est un métier, mais où, suite, parce que le développement, c'est aussi un sursaut collectif, une mobilisation suivant les réalités historiques de chaque moment. Donc, il est important que de parler de la Chine, du Brésil, des États-Unis, de l'Inde, de l'Argentine, mais nous ne savons pas par quelle étape ils sont passés. Donc il est important qu'on soit moins classique. Tout le monde ne doit pas être politicien, tout le monde ne doit pas être expert, monsieur Kitenge. Et hier, j'étais clair dans mon discours. Nous devons non seulement parler des systèmes d'exploitation durable, mais des systèmes de crédit. Et au niveau du gouvernement, de la commission économique, on a terminé la discussion sur le Fonds national de développement agricole. Toutes les plantations agricoles, mais monsieur Tonga est revenu là-dessus, tu peux hériter d'une plantation. Pourquoi ces acquéreurs n'ont pas pu le mettre à place? Parce qu'on n'avait pas un système de crédit agricole approprié. Donc, j'éviterai les différents auditeurs, par cet espace très limité,
exactement,
à lire le plan national d'investissement agricole, parce que les gens disent qu'il n'y a pas de politique agricole, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de programme. Voilà. Allez sur le site du ministère,
qui est
www.minagridaire.cd.
Merci, monsieur le ministre, pour ce message. On aura l'occasion d'approfondir ce plan dans d'autres émissions. Georges Kombo, il faut déjà conclure. En guise de conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement pour améliorer ce qu'il est déjà en train de faire?
Ben alors, moi, je crois que si par exemple, ce que le ministre a dit peut être une idée réfléchie, une idée qui peut se matérialiser. Moi, personnellement, j'ai vécu en Israël, j'ai vécu dans les Moshav, j'ai vécu dans les Kibbutz, et je sais que c'est grâce à cette politique-là qui est très contraignante que Israël est devenu une puissance qui nourrit le monde, toutes saisons confondues. Et pourtant, Israël n'a pas d'eau. Israël, c'est l'océan. Israël, c'est le sable. Mais aujourd'hui, avec leur système, et que tout le monde est dans l'agriculture, et tout le monde est dans le village. Alors, ça, c'est dans ce sens-là, je crois que l'idée peut être soutenue pour tout le monde.
Merci, Georges Kombo. Alki Tengue, quel conseil à prodiguer au gouvernement pour améliorer ce qu'il fait déjà?
Il faudrait que le gouvernement prenne une option forte, celle de redéployer son personnel spécialisé le plus loin possible dans le pays afin de mettre les citoyens sous l'éclairage de l'intelligence. Deuxième chose, il faut déployer la technologie le plus loin possible en profondeur de sorte que notre pays puisse être en mesure de jouir des performances. Troisième chose, il faut déployer un système financier viable qui touche d'abord ceux qui sont les plus isolés des systèmes classiques dont nous jouissons sur le boulevard du 30 juin. Il faut donc avoir une approche asymétrique, volontaire.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Vous avez des remarques, des suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.